Depuis septembre 2015, Grenouille mène une action d'expression radiophonique avec des usagers de la psychiatrie et des soignants.
Ça s'appelle « Quelle en est la raison ?» Et comme en ce moment ce sont les semaines d'information de la santé mentale, on y met notre grain de sel.
Ou de folie.
Du 21 au 25 mars, rendez-vous sur les 3-8, chaque jour, à 13h30, pour une série d'émissions.
Rencontres avec des psychiatres, des usagers, des cinéastes, en studio, dans la rue et à l'hôpital.
Psychiatrie et santé mentale en question, une série de programmes
à retrouver du 21 au 25 mars
à 13h30 sur le 88.8
et sur radiogrenouille.com.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes calés sur le 88.8. Semaine d'information de la santé mentale, KESAKO. Vous l'avez entendu dans cette légère bande-annonce, est organisée la semaine d'information sur la santé mentale, qu'on va abréger très rapidement en SISM. Elles sont organisées du 14 au 27 mars 2016, ici même à Marseille, sur le thème santé mentale et santé physique, un lien vital. De quoi parle-t-on quand on évoque la santé mentale? Quel terme utiliser? Comment comprendre la santé mentale quand on n'est pas confronté dans son entourage personnel ni professionnel à la maladie? Pour en parler avec nous, pour évoquer les grandes lignes de cette semaine d'information à la santé mentale, cette édition 2016, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Laurence Curdjian, psychologue, vice-présidente d'Arpsidemio, association de recherche en psychiatrie et épidémiologie, qui est à l'origine de à l'organisation de cette semaine d'information, et Maïté Arthur, déléguée régionale de l'asso Argos 2001, et présidente de l'Union nationale des GEM France, responsable de la création d'un GEM groupe d'entraide mutuelle à Marseille, les Canoubiers, dans le 6e. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et à ma droite, Nelly, de Radio Grenouille également. Bonjour Nelly.
Salut Simon.
Tout va bien?
Ça va.
Si tu es avec nous en studio, c'est pour présenter le pourquoi. Quelle est la raison qu'on évoque sur Radio Grenouille la semaine d'information de la santé mentale, sa 15e édition?
Alors, moi j'ai eu envie d'être avec vous pour dialoguer avec Laurence et Maïté, bien évidemment, que je suis allée rencontrer une fois que notre projet était en marche. On a réfléchi ça nous a pris presque quelques années, vous vous rendez compte, pour mettre en action une idée qui était par là déjà depuis encore quelques années, à savoir de donner la parole à ceux à qui souvent on ne la donne pas, ce qui est un peu beaucoup notre expérience aussi à Radio Grenouille. On est très souvent en relation avec des groupes de personnes avec lesquelles on fait de la radio. On a des espaces de pratique radiophonique et sonore qui nous permettent de faire ensemble, parce que c'est aussi un peu ça l'origine de la radio associative, et nous en sommes une. Et dans cette histoire de la radio associative, il y a l'histoire d'une radio qui s'appelle Radio La Colifata, qui a été montée à Buenos Aires, en Argentine, dans un hôpital psychiatrique qui s'appelle Borda. Et je pense que toutes les radios associatives ont entendu parler de cette expérience, et beaucoup d'entre elles ont diffusé des sujets sur Radio La Colifata, ce qui nous est arrivé aussi dans les années 90. C'est une radio qui est née dans les années 90, et on a diffusé fin 90 des programmes de Radio La Colifata. Et ça marque parce que c'est une expérience forte, parce que c'est un intérieur très fermé sur lui-même, dans lequel la parole ne circule pas, et dans lequel, parce que un soignant un peu fou décide de faire de la radio et de construire la parole différemment et de faire en sorte qu'elle puisse être utile à l'intérieur mais aussi à l'extérieur en diffusant de petits extraits d'émissions. Il décide que cet outil radiophonique va être d'utilité sociale. Et nous, évidemment, cette question de l'utilité sociale, on se la pose tout le temps. Et on a eu envie de continuer d'avancer sur des terrains qu'on ne connaissait pas, et donc d'articuler un projet, une action d'expression radiophonique sur les terrains de la psychiatrie et de la santé mentale. Et du coup, on se dit, mais évidemment, il y a plein de trucs qui se passent, et des trucs qu'on n'a jamais vus avant. Et on voit passer semaine d'information sur la santé mentale, et là on se dit, Ben voyons.
Et qu'est-ce que c'est, du coup, la santé mentale? Depuis septembre, hein, du coup, plusieurs permanentes Radio Grenouille travaillent, hein, en lien, on l'a entendu comme ça, avec ce projet Quelle en est la raison, qui donne lieu, Nelly, à des ateliers hebdomadaires et à plusieurs créations, qui va aussi donner lieu à 3 jours de radio que nous allons effectuer début juin, c'est ça?
Ben oui, on a essayé de construire cette chose-là. C'est un terrain qu'on ignore complètement, le terrain de la santé mentale. Donc, on est allé voir l'hôpital, on est allé voir des associations. Maïté, je t'ai rencontré au Canoubier parce qu'on est allé voir ce groupe d'entraide mutuelle. Si tu vas nous dire ce que c'est. On s'est rendu compte qu'il y avait toute une organisation que j'ignorais complètement. Et puis après, je suis allée rencontrer Laurence au CMP, Centre
psychologique,
mm-hmm. C'est ça, ouais, qui est un des premiers espaces dans lesquels on peut aller, je crois, si on a un problème pour soi ou pour un de ses proches. Et voilà, tout ça, c'est un univers avec lequel on essaye de tricoter, avec des gens qui sont avec nous. On est ensemble tous les mercredis. On se dit des choses, on en enregistre, on en monte, on en diffuse sur nos ondes, sur une plateforme, avec l'objectif de se malaxer, de s'assouplir avec ces pratiques radiophoniques et d'arriver à les faire nôtres à tel point que pendant 3 jours, sur la place publique, ces questions-là, on va les partager. Voilà, sur le cours Julien, au centre de la ville, parce que c'est aussi souvent dans les centres des villes que se concentrent des choses, et que la place publique, c'est peut-être l'endroit où il faut parler de folie, de psychiatrie, de santé mentale. C'est peut-être un peu dingo comme projet, mais voilà, on le fait.
On espère que ça va peut-être rendre ces 3 jours, ce sera les 2, 3 et 4 juin, ouais, 2016. Ça va rendre peut-être comme ce degré de folie qu'on peut entendre dans cette petite présentation de la Colifata, justement.
Radio La Colifata, transmitiendo del Hospital Psiquiátrico Borda.
Les quiero contar una historia.
Todo empezó un 3 de agosto de 1991.
Este, que está más loco que nosotros,
decidió crear una terapia especial.
Una radio para que le hablemos al mundo.
Y lo más importante,
que empezamos a ser escuchados.
Y así nació la Colifata. ¿Qué quiere decir la Colifata? Loco que quiere que todos sean felices.
Y lo que empezó siendo una locura,
terminó siendo una realidad.
Pronto nos siguieron Francia,
en Italia,
España,
en todo el mundo.
Algo creo que habíamos hecho bien.
Porque ahora viene Aquarius y nos dice,
¿por qué no nos contáis vuestra historia?
Porque son españoles.
El mundo está loco.
El mundo está loco. ¿No es cierto?
No. El ser humano es extraordinario.
Laurence, Curdian, Maïté, Arthur, peut-être une petite réaction à ce que Nelly vient d'expliquer justement sur l'origine du projet Quelle en est la raison, et peut-être aussi à l'action de la Colifata, effectivement.
Ben, moi, je trouve que faire entendre la voix de ceux que l'on n'entend pas, eh bien, c'est un très beau projet. Et effectivement, que ça puisse passer comme ça par les ondes, ça change. Et puis, peut-être qu'on les entendra mieux.
Moi, j'ai vécu cette expérience à Trieste. Il y a une radio libre en Italie, oui. Il y a une radio libre qui est animée par les usagers de la psychiatrie de la ville.
C'est Radio Fregola.
Voilà, Radio Fregola. Fragola, la fraise.
Ouais, je parle très mal d'italien, c'est une catastrophe.
Et donc, moi, je trouve que ce sont des expériences qui devraient se multiplier. À Paris, il y a une station aussi qui existe.
Radio Citron.
C'est ça. Plus, il y a quelque chose d'assez original, les papotins, alors qu'ils, oui, eux, éditent carrément un numéro très spécial, grand format, et avec des personnalités qui viennent, qui sont interviewées par les usagers. Et ça, c'est vraiment très drôle, plein d'humour, et un beau fond et de la forme.
Des choses qui peuvent nous aider à nous faire une culture sur ce terrain-là de la santé mentale, c'est ça. Un autre, la semaine d'information autour de la santé mentale, Laurence Curdian, que vous organisez avec votre, entre autres avec votre association Arpsidemio. Oui. Quelles sont les grandes lignes de cette édition, de cette année? Le principe, la semaine d'information en santé mentale existe depuis 2001. Oui. Le grand principe est la déstigmatisation de tous les rapports que la société civile peut avoir avec la maladie mentale.
L'idée au départ de la semaine d'information sur la santé mentale, c'est faire connaître, faire parler et dire que la maladie mentale, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, que ce n'est pas quelque chose de tabou. Et vraiment, cette semaine, on l'a mise en place à Marseille, parce que c'est quand même une manifestation nationale, elle existe dans toute la France. Mais nous, au niveau de Marseille, on l'a mise en place à partir d'une enquête que l'on a fait il y a maintenant un certain nombre d'années, qui nous a permis de voir que on pensait que les soins étaient connus par la population, que les structures, les lieux, qu'on était connus parce qu'on a une expérience sur le terrain, nous, donc sur le CMP de la Belle de Mai, on est sur le 3e et une partie du 2e arrondissement. On pensait que notre pratique était connue. Et cette enquête nous a fait voir que non, que vraiment la population du quartier pensait que pour pouvoir être soignée de troubles psychiques, il fallait aller à Édouard Toulouse, donc à l'hôpital. Donc, fort de cette constatation-là, ceci associé aux représentations négatives, évidemment, de la maladie mentale, nous nous sommes dit avec donc le docteur Dolores Torres, donc qui est le chef de pôle, mais aussi avec Maïté Arthur, avec un certain nombre aussi de familles, nous sommes dit qu'il fallait faire connaître ce qui se passait dans les structures de soins, pour justement déstigmatiser et aller au-devant de la population. C'est comme ça que les SISM à Marseille ont vu le jour et petit à petit ont permis à un certain nombre de partenaires de nous rejoindre. Il y a un certain nombre d'autres structures hospitalières, il y a des associations, il y a la ville de Marseille aussi qui nous soutient beaucoup maintenant depuis quelques temps. Et voilà, donc cette année, on travaille sur la question du corps et de l'esprit. Après avoir travaillé pendant des années, on a fait santé mentale et logement, santé mentale et travail, enfin un certain nombre de choses qui concernent notre pratique ici à Marseille, des vraies questions que l'on rencontre au quotidien avec les patients.
Il y avait également, il me semble que vous aviez consacré une SISM à la santé mentale et les médias. Également, il y a quelques années.
Alors oui, les médias, ça c'est une grande question. C'est une grande question, effectivement, parce que c'est difficile de travailler avec vous, les médias, parce que les représentations, là justement, la question des représentations a vraiment la vie dure, et puis les médias, on cherche du spectaculaire, on cherche le tueur à la hache, on cherche le fou dangereux qui va effectivement commettre quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, mais c'est vraiment pas c'est une infime minorité, et que les gens qui ont des troubles psychiques, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, c'est tout le monde, et on n'est pas dangereux.
Jusqu'au 27 mars, on l'a dit, le programme de la SISM est à retrouver sur radiogrenouille.com. Ce sont des expositions, des projections, des conférences, des colloques, donc destinés au grand public dans cette démarche de déstigmatisation, mais également au personnel de santé, dont vous l'évoquiez juste avant l'émission en antenne, qu'il était assez important également pour les jeunes étudiants, même les professionnels plus aguerris, de revenir un peu sur ces images autour de la santé mentale.
Ben oui, parce que les professionnels, c'est aussi monsieur, madame, tout le monde, tout le monde a ses représentations sur la maladie mentale. On a aussi, en tant que professionnels, nos peurs, nos craintes, nos interrogations. Et c'est là aussi, c'est quelque chose de difficile à combattre. Et c'est vraiment le partage d'informations, de connaissances avec les usagers, avec les familles, qui peut faire en sorte que ces choses lourdes à porter pour les usagers de la psychiatrie pourront peut-être un petit peu s'assouplir, du moins on l'espère.
Maïté Arthur, je l'ai dit en introduction, vous avez fondé le groupe d'entraide mutuelle des Canoubiers dans le 6e. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la définition de ces groupes d'entraide mutuelle, ces GEM, qui existent depuis 10 ans, un peu plus maintenant?
Alors, c'est
qu'est-ce que c'est, qu'est-ce à cause,
d'où ça vient d'abord? D'où ça vient? Ça vient, comme souvent en psychiatrie, de ces images un peu d'épinal qu'on a sur ce qui se pratique outre-Atlantique. Et là, en l'occurrence, il s'agit du Québec et de l'Angleterre, qui n'ont, rappelons-le, pas du tout la même culture que nous concernant les vulnérabilités, c'est-à-dire qu'ont une culture du soutien, nous, de la prise en charge, ce qui n'induit pas du tout les mêmes comportements vis-à-vis des personnes concernées. Et fort des expériences qui se sont passées ailleurs, nos trois grandes associations nationales se sont mises en lien avec les représentants du gouvernement pour essayer de mettre en place un dispositif qui sorte du champ de la psychiatrie, du champ du soin, mais qui soit un accompagnement. Et donc, les groupes d'entraides mutuelles sont nés de la loi de 2005. Et pour avoir cette liberté d'action financée par l'État, il a fallu aussi accepter, c'est toujours donnant-donnant, hein. Il a fallu accepter le fait que la maladie psychique doit être compensée dans les handicaps sociaux qu'elle génère. Donc nous sommes tous des handicapés psychiques. Il y en a qui le sont effectivement vraiment, hein, c'est-à-dire lourdement atteints avec des pathologies particulières, mais c'est vraiment une partie, je vais employer à dessein le mot, résiduel de la psychiatrie. Sinon, le gros des troupes, en gros, c'est 85% de personnes qui sont soignées dans la cité, donc elles ne sont pas si dangereuses que ça, puisqu'elles vivent à côté de nous tous les jours. Hein, on vit à côté de vous tous les jours, vous ne nous voyez pas toujours, mais on est là. Et donc, le reste est à l'hôpital, les cas vraisemblablement les plus lourds, ou alors des épisodes, un moment où vraiment, on ne peut pas éviter l'hospitalisation pour se remettre en selle et en accord avec la société. Donc ces groupes d'entraide mutuelle sont des lieux qui sont à la fois régis par la loi 1901 comme toutes les associations lambda, mais qui ont un cahier des charges puisque nous devons rendre des comptes sur des fonds publics qui nous sont alloués pour faire marcher ces structures. À propos de ce financement, c'est le même depuis 10 ans. Donc, nous avons quand même des salariés, nous avons des loyers qui augmentent, nous avons beaucoup de charges nouvelles qui se sont greffées sur nos budgets. Mais la caractéristique principale de ces lieux, c'est qu'ils sont, ils doivent être, ils ne le sont pas tous, totalement investis par leurs adhérents, qui doivent composer, bien sûr, à partir de leur assemblée générale, comme toute association qui se respecte, d'un CA, d'un bureau et de l'autonomie, à charge de rendre des comptes sur l'utilisation des fonds qui nous sont versés. Et donc, ce sont des lieux de liberté, ce sont des lieux où on essaie de se rétablir les uns avec les autres et les uns par les autres, des lieux où l'on ne demande à personne quelle est la pathologie ? Est-ce qu'on a un médecin ? Est-ce qu'on se soigne ? C'est lorsque la confiance est établie que ça se discute entre pairs. Quelqu'un déménage, on va aider au déménagement. Quelqu'un a une étagère qui est dégringolée, on va remettre l'étagère. Quelqu'un n'ose pas sortir le soir, on s'y met à plusieurs, on y va ensemble, on rentre ensemble. Nous avons des activités, par exemple, puisque nous nous sommes rencontrés au Canoubier, qui tiennent compte de la population qui compose les adhérents du GEM. Par exemple, nous, lorsque nous nous sommes créés il y a 10 ans, c'était avec un groupe de jeunes gens, avec un cursus universitaire, que la maladie avait stoppé dans leur évolution de universitaires, mais qui restaient toujours en demande intellectuelle. Et donc, les deux premières demandes que nous avions, on se rencontrait à la maison des associations pour commencer à former le groupe, c'était le théâtre et c'était la philosophie. Et donc, depuis 10 ans, dans notre GEM, nous avons un atelier de philosophie qui est animé par des philosophes. Et donc voilà, ça dépend. Un GEM qui est installé dans la ruralité, à la campagne, n'aura pas les mêmes adhérents, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes activités qu'un GEM qui se trouve en ville, par exemple.
Un GEM, c'est un lieu voilà, où les usagers se prennent en main, et ils ne sont pas tous indépendants, hein, ces GEM. Il y en a certains qui sont indépendants financièrement, pas tous. Enfin,
Alors, il faut remonter à 2005, au moment où la loi a été, avec le décret d'application a permis de s'emparer de la loi et de créer les GEM. Il y a eu à peu près 200 dossiers qui ont été déposés dans les c'était les DAS à l'époque. Maintenant, ce sont les ARS. Et sur ces 200 dossiers, il y en avait à peu près une trentaine qui étaient issus d'associations d'usagers pur sucre. Les autres étaient promus par des organisations professionnelles de gestion du handicap. Vous savez, cette fameuse prise en charge. Et donc, nous n'avons pas réussi au bout de 10 ans à inverser ce rapport de force, c'est-à-dire que beaucoup de GEM sont encore sous tutelle. Et là, c'est la présidente du NGF qui parle. On se bat depuis 8 ans et nous allons avoir un nouveau cahier des charges qui va bien faire la distinction entre ce qui est d'une co-gestion avec un organisme de choix des adhérents et un parrainage, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse faire médiation lorsqu'il y a, par exemple, des difficultés, soit avec le personnel, soit entre les adhérents, soit au niveau financier avec une gestion qui n'est pas forcément toujours limpide.
Est-ce qu'on peut dire aussi qu'à la fois cette semaine d'information autour de la santé mentale, qui est ponctuelle, ces deux semaines par an, l'action au quotidien aussi des GEM, c'est une remise en question continue aussi du cadre de soins, de ces fameuses images d'Épinal que vous évoquiez tout de suite, Maïté Arthur, le cadre de soins, tout ce qu'on rapporte à la santé mentale. Votre semaine et aussi l'action des GEM et la façon dont les usagers doivent se prendre en main aussi en permanence.
Alors c'est sûr que les GEM aident quand même à montrer à la population, puisque nous sommes inscrits dans la cité, sur des territoires, montrent à la population que le rétablissement est possible et que c'est la majorité des personnes qui sont soignées en psychiatrie qui se rétablit. Qu'est-ce que ça veut dire se rétablir ? Ça veut dire d'abord établir une relation thérapeutique avec son médecin, en confiance, en pouvant discuter de l'effet d'un traitement, de ce qui convient, de ce qui ne convient pas. Mais oui, bien sûr que c'est un dispositif qui permet de déstigmatiser les maladies mentales. D'abord parce que les gens qui viennent nous visiter, qui viennent nous voir, ne savent pas qui est qui quand elles viennent. Elles ne savent pas. Ça nous est arrivé de recevoir, ça nous arrive encore, toujours et régulièrement, de recevoir des visiteurs, des collectivités territoriales ou d'autres associations qui viennent d'ailleurs et qui, au bout d'un moment, se disent « Mais ils sont où, les malades mentaux ?» Je me souviens d'un président de conseil général qui m'avait posé la question. Il était là, on lui avait servi du café, on discutait. Il me dit mais ils sont où ? J'ai dit mais aujourd'hui on leur a dit de pas venir parce qu'on voulait pas vous faire peur.
Les GEM aussi par rapport à nos structures de soins, c'est quelque chose qui est important parce que nos structures sont ouvertes de 9h à 17h. Et à partir de 17h, on peut plus être malade ou pas bien. Et effectivement, les GEM offrent cette possibilité-là. Les gens ont autre part à aller. Et puis, au-delà de cette question-là, ça fait voir aussi que on n'a pas toujours besoin d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'une infirmière ou d'un éducateur pour pouvoir aller mieux. Et que, comme dit Maïté, la question des pères, effectivement, est peut-être là quelque chose de prioritaire à certains moments de la vie par rapport à cette question du rétablissement. Nous, on peut être là au moment de la crise, mais après, ça peut se passer et on voit que ça se passe ailleurs.
Vous voulez rebondir ?
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, chez nous, entre usagers, ce qu'on se dit, c'est si pour profiter de la vie, parce qu'en fait, les GEM nous ont appris ça, qu'on pouvait profiter de la vie. Si pour profiter de la vie, il faut se soigner, quelle que soit sa pathologie, on se soigne, c'est tout. Voilà.
Pour revenir sur la semaine d'information de la santé mentale, Laurence Curdjian, le thème de cette année, on l'a dit, c'est santé physique et santé mentale, un lien vital. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce lien vital entre les deux ?
Eh bien, ça veut dire que pour aller bien dans sa tête, il faut aussi aller bien dans son corps. Et que bien souvent, quand on est hospitalisé à l'hôpital psychiatrique, quand on est pris en charge de ce côté-là, la question du corps, elle est complètement oubliée. Et il faudrait pouvoir plus de liens entre le corps et l'esprit. Et on se rend compte dans le quotidien que les patients qui viennent nous rencontrer ont une très mauvaise hygiène de vie, aussi bien au niveau de l'alimentation, au niveau des soins dentaires, au niveau des soins cardio, enfin tout le corps est un peu à l'abandon quand la maladie vient s'installer et vient envahir l'esprit. Et les patients n'ont pas forcément cette... comme nous, hein, quand on a un problème, eh ben, on se précipite chez le médecin pour voir ce qui se passe. Ben non, les patients qui ont toutes ces préoccupations peut-être un peu délirantes, un peu... Ben non, le corps est un peu séparé de l'esprit. Et donc du coup, ben, il faut pouvoir, nous, équipe de soins, les rattacher. C'est un peu comme si on avait deux côtés, deux morceaux séparés. Et c'est pour ça que cette année, ça nous a semblé important de travailler cette question-là. Et donc, on a un certain nombre de personnes qui viennent, des dentistes, des médecins du sport, des personnes qui vont aussi évoquer la nutrition. Parce que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est super. Bravo, mais c'est pas la vraie vie, ça, c'est pas vrai. D'autant plus que quand on a une AAH de 840 €, se nourrir, une allocation adulte handicapé.
Voilà.
Voilà. Et bien, et qu'il faut payer son loyer, qu'il faut se nourrir, qu'il faut fumer aussi. Et ben, les fruits et les légumes, c'est pas la priorité. Bien donc voilà, c'est vraiment là on a voulu mettre en lumière le fait aussi que les patients qui souffrent de troubles psychiatriques ont une espérance de vie beaucoup moindre, justement par rapport à cette mauvaise hygiène de vie.
Mais je me pose la question justement du peu de présence, de visibilité ou d'aveuglement que nous avons les uns et les autres vis-à-vis de la santé mentale en vous entendant parler, parce que je me dis que les questions que vous posez, en fait, c'est les questions qu'on devrait tous se poser. Quand tu parlais, Maïté, du vivre ensemble et d'avoir ces espaces dans lesquels on peut tricoter, ça, je pense que tout le monde en a besoin. Ou quand tu parles, Laurence, de faire circuler les relations entre la tête et l'esprit, si on parle de l'hôpital de manière générale, de toute façon, tout patient va se plaindre de ce manque de relation entre l'esprit et le corps. Donc c'est en ça aussi que c'est intéressant, c'est que ce que vous activez comme questionnement est assez...
C'est général.
C'est bah, ça.
Ça vaut pour tout le monde.
C'est
tout le monde. Hein. Moi, je rectifierai un petit peu le propos de Laurence. Moi, je ne crois pas que parce qu'on est à l'hôpital psychiatrique, on oublie son corps. Moi, je crois qu'en général, nous oublions tous notre corps.
Nous
sommes une civilisation où le corps n'est pas...
On
n'a pas d'éducation à propos du corps. Ouais. Et donc, quand on est en psychiatrie, on continue tout simplement à ne pas s'occuper de son corps.
Ouais.
D'autant plus que ce qui se passe dans la psyché est prépondérant à ce moment-là. Mais je crois que, les populations défavorisées, je pense notamment aux populations que soigne l'hôpital Édouard Toulouse ou une partie de la population même qui est soignée à Valvert et ailleurs, je veux dire, ce sont des populations qui n'ont pas l'habitude de faire des jogging, d'aller en salle, faire de la gym, etc. Et donc, ben, quand on est en psychiatrie, le corps est naturellement aussi abandonné que dans la vie ordinaire.
Mais alors du coup, Maïté, est-ce que tu vas aller faire un peu de shiatsu ou de méditation samedi après-midi pendant la folle histoire de fou à la Cité des Arts de la Rue? Parce que ça, c'est une façon de remettre en relation et en contact le corps et l'esprit.
Alors je ne le ferai pas samedi parce que nous le faisons toute l'année dans le GEM.
Et voilà.
C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui... Dans un petit moment, il va y avoir un atelier au GEM de danse moderne, c'est-à-dire qu'il y a du théâtre, c'est-à-dire que, en fait, nous avons depuis 4 ans un projet qui se perpétue en changeant de thème. Cette année, c'est le lien et l'attachement. Et ce projet, ses deux objectifs, c'est réconcilier les gens avec leur corps. Et c'est ne pas avoir peur de l'exposer.
C'est à ce moment-là qu'on parle de médiation corporelle. Vous avez utilisé un terme poétique également, voilà, c'est ça.
Réconcilier avec son corps.
C'est ça.
Corps. Parce que c'est vrai que c'est l'abandonner, pas seulement en psychiatrie.
Je complète par rapport à ce que je disais. Si tu vas pas samedi, moi je vais y aller. Laurence,
ah mais je vais
peut-être.
Samedi à la folle.
Tu vas. Alors tu nous en dis deux mots parce que je suis sûre que tu vas en parler très bien.
Bah, j'y vais d'autant plus que
de cette
nous avons.
De fou.
J'y vais d'autant plus que nous avons rendez-vous le petit groupe qui s'occupe de préparer la Fada Pride. Pour le mois de juin.
Oui.
Vous viendrez aussi nous interviewer sur la Fada Pride.
Mais non, tu viendras la présenter. Alors j'espère qu'elle va arriver après les
2
et 4 juin. Et que donc vous viendrez, vous serez plusieurs à venir en parler sur les ondes de
Radio-là. Voilà, donc on va profiter des journées de vendredi et samedi pour à la fois diffuser nos informations et continuer de travailler sur le manifeste que nous allons envoyer. D'abord, on va envoyer du bois pendant la Fada Pride, mais ensuite, on va envoyer le manifeste aux politiques, parce que ce dernier rapport à propos de la maltraitance dans les lieux de soins, ça nous va, ça nous vient.
D'accord. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir présenté toutes ces choses-là. Votre GEM des Canoubiers, je le rappelle, dans le 6e arrondissement, Maïté Arthur, Laurence Curgeon pour la semaine d'information à la santé mentale qui, je le rappelle, court jusqu'au 27 mars 2016. Énormément de choses sont abordées. Le programme est également sur le site de Radio Grenouille.
Je peux rajouter juste une
Évidemment.
Chose, parce que nous sommes là pour donner de l'information.
Bien sûr.
Alors, la première information, 1% de toutes les populations du globe est constituée de personnes ayant des troubles psychiques. Ensuite, je pense que je le dis parce qu'il faut que tout le monde en prenne bien conscience, le fait d'être humain, c'est-à-dire d'avoir la parole, d'avoir la mémoire, d'avoir l'intelligence, d'avoir la sensibilité, ça prédispose à péter des câbles de temps en temps. Donc n'ayez pas peur, ça se soigne.
Merci pour ces encouragements, Maïté.
Merci beaucoup, Maïté Arthur. Merci, Seb, Jelly, à la réalisation. La semaine d'information de la santé mentale continue tous les jours sur Radio Grenouille.
Depuis septembre 2015, Grenouille mène une action d'expression radiophonique avec des usagers de la psychiatrie et des soignants.
Ça s'appelle « Quelle en est la raison ?» Et comme en ce moment ce sont les semaines d'information de la santé mentale, on y met notre grain de sel.
Ou de folie.
Du 21 au 25 mars, rendez-vous sur les 3-8, chaque jour, à 13h30, pour une série d'émissions.
Rencontres avec des psychiatres, des usagers, des cinéastes, en studio, dans la rue et à l'hôpital.
Psychiatrie et santé mentale en question, une série de programmes
à retrouver du 21 au 25 mars
à 13h30 sur le 88.8
et sur radiogrenouille.com.